de retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Et donc on est toujours à la salle Equinox pour une journée en fait organisée par la Ligue de l'enseignement sur le thème du vivre ensemble. Et d'ailleurs on a juste avant accueilli des jeunes qui nous ont fait part de leurs propositions. Et bon, alors qui dit vivre ensemble aussi, on va parler aussi d'immigration dans cette émission, puisque nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Etienne, qui est donc anthropologue et maître de conférence à l'université de Tours. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Alors vous avez travaillé sur l'immigration portugaise et vous avez et Seb a travaillé aussi, bon pas dans le même dans le même cadre.
Non, pas du tout.
Sur l'immigration mallorquine.
Oui.
Mallorquine. Hein.
Oui, c'est ça. Cette fois-ci, tu t'es pas trompé.
Voilà, souvent, je me trompe de dénomination. Vous avez donc travaillé sur notamment sur l'immigration portugaise et notamment sur le pèlerinage de Sainte-Solange et sur la fête de l'émigrant de Mortosa. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi consistaient vos travaux, peut-être d'abord sur le pèlerinage de Sainte-Solange?
Ah oui, le pèlerinage de Sainte-Solange, c'est un petit pèlerinage qui a lieu depuis très 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 longtemps, on ne sait pas exactement quand, mais ce qu'on note, c'est que depuis les années 1960, ce petit pèlerinage devient de plus en plus fréquenté par des gens d'origine portugaise qui se sont installés dans la région. Donc Sainte-Solange, c'est un petit village qui se trouve dans le département du Cher. Et ces personnes d'origine portugaise ont commencé à fréquenter le pèlerinage et ils l'ont fréquenté de plus en plus, à tel point qu'ils ont petit à petit fait partie de l'organisation. Et aujourd'hui encore, les Portugais ou les gens d'origine portugaise représentent une bonne part des personnes qui font vivre le pèlerinage. Et je me suis employé à étudier tout cela.
Alors, un autre terrain d'étude, je l'ai dit, toujours concernant l'immigration et l'émigration portugaise, c'est celui de la ville de Mortosa et de sa fête de l'émigration. Alors, il est intéressant de se penser sur ce travail. Il fait un peu écho au thème d'aujourd'hui. On va y revenir, notamment avec le transnationalisme. C'est une perspective que vous avez étudiée dans vos travaux. Quel a été l'intérêt d'étudier cette fête, et cette ville de Mortosa, précisément?
Eh bien, l'intérêt, c'est d'observer que la migration des gens, elle a bien sûr un impact sur les gens qui migrent, qui partent de chez eux et qui s'installent ailleurs. Elle a un impact sur les lieux où ils s'installent. Mais elle impacte aussi les gens qui restent, c'est-à-dire ceux qui ne migrent pas, ceux qui ne bougent pas. Eh bien, dans une ville comme Mortosa, où la moitié de la population est partie dans les années 60-75. Cette absence de beaucoup de personnes a aussi marqué la ville. Puis le terme d'absence n'est peut-être pas tout à fait approprié parce que quand on est migrant, on a quand même des liens avec les lieux que l'on quitte, les gens que l'on quitte, les habitudes, etc. Et le terme de transnationalisme marque bien cette idée que la migration, c'est un processus et que entre l'endroit qu'on quitte et l'endroit où l'on arrive, il se crée tout un tas de relations en fait.
On y reviendra, il y a un espace transnational qui peut-être surplombe les frontières, on en reparlera. Alors on va essayer de retracer un peu pour bien comprendre en fait le parcours de l'immigration portugaise, mais aussi mallorquine. Et donc pour comprendre comment elle se construit, quel était le contexte de cette émigration dans la ville de Mortosa? Pourquoi les gens ont émigré tout simplement?
Et peut-être où est-ce que se situe cette ville, ce village de Mortosa au Portugal?
Elle se situe dans la région de Aveiro, Porto, donc plutôt dans le centre du Portugal. C'est une petite ville qui se trouve sur le littoral, qui est à cheval entre l'océan et puis une lagune.
Et donc le contexte de départ, pourquoi les gens effectivement...
Pourquoi les gens sont partis du Portugal ? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais au XXe siècle particulièrement, il y a évidemment la dictature de Salazar, dictateur d'extrême droite, donc qui a rendu la vie très très dure aux gens. Ajoutons à cela une très grande pauvreté. Alors ça touche différemment les régions du Portugal, mais le nord était particulièrement pauvre. Et puis, ajoutons à cela le fait que, pour les hommes aussi, ils devaient honorer le service militaire. Le service militaire, c'était 4 ans, dont un an passé dans les colonies, Mozambique, Angola, donc des lieux où, qui souhaitaient leur indépendance. Et donc, c'était très des lieux de guerre, en fait, hein, on va le dire. Donc tous ces éléments ont fait que un certain nombre de personnes, des hommes mais aussi des femmes, puisqu'on en parle un peu moins, mais les femmes ont tout autant migré que les hommes pour tout simplement avoir une vie meilleure.
Et donc Sébastien a travaillé alors d'une façon différente, plus en freelance en fait.
Oui, en amateur
en
on dirait.
Journaliste pigiste. Voilà, sur l'émigration portugaise, alors notamment de la ville de Soler.
Oui, Mallorquine, l'émigration Mallorquine de la ville de Soler, oui.
Pas portugaise, excusez-moi. Mais on a interviewé
Jean-Christophe Roger, qui est un Français descendant lui aussi de Soléric, les habitants de Soler au Baléares, et qui est un généalogiste confirmé. Ça, c'est parce que voilà, c'est ce volet-là. Mais voilà, il nous l'a expliqué. D'ailleurs, ça a dépassé le strict cadre de la généalogie pour rentrer dans une étude sociale, historique d'une migration. Et je crois, Maxime, que tu voulais qu'on lance l'extrait de l'interview où il nous expliquait le contexte de départ.
La présentation de Soler, ou la présentation de Soler, c'est comme tu veux.
Effectivement, vous avez parlé de Soler aussi. Alors, dans les recherches qu'a mené Sébastien, qui est avec moi, bon, tes recherches partent un peu de Soler. Hein, c'est là que partent tes recherches, en fait.
C'est le point de départ. C'est le point de départ pour beaucoup, je pense.
Et est-ce que la ville de Soler a été le point de départ là de beaucoup de migration vers, on en parlera, mais vers Marseille notamment.
Oui, mais Soler, c'est particulier, oui.
Oui, voilà. Alors, Soler a deux particularités qui expliquent cette immigration. C'est une petite ville, hein, une petite ville pour Majorque, c'est pas si petit que ça. À l'époque, c'était la deuxième ville de l'île, je crois, qui devait faire 8000 habitants à la fin du 19e siècle. Donc, elle a deux caractéristiques, c'est d'être très isolée. Elle était très isolée du reste de l'île, parce qu'il y a une montagne, une chaîne de montagnes au nord de l'île de Majorque, qui isole Soler du reste de l'île. Donc c'était très compliqué pour les habitants de Soler d'aller à Palma, qui est la capitale de l'île, ou dans le reste de l'île, parce qu'il fallait passer par un col de montagne. Alors jusqu'en 1850, il n'y avait même pas de route, c'était un chemin de mule. Après 1850, il y a eu une route, mais c'est une route de montagne, il fallait 4 heures en diligence pour aller de Soler à Palma. Et donc Soler, c'est une ville qui est au bord de la mer, hein. il y a une ville, il y a un bourg et puis il y a un port à quelques kilomètres, qui a une tradition de marins et de pêcheurs. Et en fait, c'était, alors comme on dit souvent, alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'était plus facile pour un habitant de Soler d'aller en bateau à Marseille que d'aller à Palma en calèche. Donc en fait, voilà, Soler avait cette particularité d'être isolé du reste de l'île, ce qui a favorisé un élan vers l'immigration et les voyages en dehors de l'île. L'autre caractéristique, c'est que Soler avait une culture d'orange. C'est la seule ville de l'île, hein, quasiment, où il y a énormément de cultures d'orangers. Et donc Soler s'est développé en partie par le commerce des orangers. Donc Soler a vendu beaucoup d'oranges à Marseille, à Sète, même sur la côte catalane également. Donc voilà, il y a ces deux aspects-là. Donc il y a l'aspect isolement qui favorise l'émigration et il y a l'aspect commerce d'oranges. Et c'est ça qui a été à l'origine, en fait, de ce processus d'immigration, notamment vers la France.
Alors,
on vient de parler donc, du contexte de départ des villes de Mourtossa et de Soyer, mais il y a aussi les villes d'accueil. Alors, pour vous, Guillaume Etienne, ça a été la ville de La Riche, notamment, que vous avez étudiée. Et ce qui est particulièrement intéressant, et notamment pour aujourd'hui, c'est que vous montrez les liens qu'il y a, en fait, au-delà des chaînes migratoires entre les villes, les liens qui se créent entre les villes.
Oui, tout à fait. Ce sont des choses. Effectivement, ça a commencé à La Riche, où on se trouve en ce moment, un peu par un concours de circonstances. Je vais peut-être commencer par cet exemple-là pour montrer le type de relation qui se joue. Une recherche sur la migration portugaise à La Riche a été lancée, en fait, demandée par le comité de jumelage de la ville de La Riche pour en savoir un petit peu plus sur les habitants d'origine portugaise de la ville. Donc on a été amené à rencontrer des gens, à la fois d'anciens migrants portugais, mais aussi des gens qui n'ont jamais migré, mais qui travaillaient avec des gens d'origine portugaise, etc. Et puis, il a fallu rendre compte par une exposition, d'ailleurs dans la salle Equinox où on se trouve là. Et à cette occasion, eh bien, il y a des personnes de Murtosa qui sont venues parce qu'elles faisaient partie du comité de jumelage, en fait. Et cette délégation, on va dire, de Murtosa a permis de voir qu'en fait, les liens les plus forts n'étaient pas forcément ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à La Riche, mais c'est aussi pour d'autres raisons. En gros, des gens de Murtosa qui sont arrivés en France sont allés dans d'autres endroits, mais très peu à La Riche. Ils sont pas venus à La Riche. Les gens qui viennent du Portugal et qui habitent dans le coin sont plutôt originaires de la région de la ville de Nisa. Donc c'est intéressant parce que ça montre que finalement les liens qui sont entretenus peuvent être aussi un petit peu déformés, on va dire, pour alimenter des relations qui, on va pas dire qu'elles sont totalement inventées, mais qui sont remodelées. Ces relations, elles passent par des moyens, on va dire, administratifs, tels des comités de jumelage. Elles passent aussi par des choses très banales, comme des lettres à l'ancienne, des mails désormais, des communications via Facebook, des choses comme ça, qui permettent, avec les traductions automatiques, eh bien, de discuter avec par exemple, des petits-enfants qu'on aurait aux États-Unis, qui ne maîtrisent pas le portugais, mais avec lesquels on peut discuter un petit peu. Ça se traduit par des habitudes, ça se traduit par l'envoi. Alors autrefois, les migrants portugais envoyaient de l'argent au Portugal, mais il n'y avait pas que de l'argent. On envoyait aussi, des pratiques, des coutumes. Par exemple, la fierté de Murtosa, mais l'un des éléments phares de la ville, c'est l'anguille. L'anguille qu'on pêche pour manger, etc. Il y a une conserverie, etc. Du coup, il y a une fête de l'anguille, par exemple, aux États-Unis, hein, dans une ville où il y a beaucoup de gens de Murtosa qui se sont installés. Donc ce sont aussi des coutumes, des manières de faire qui se transmettent.
Et dans la ville de Murtosa, il y a aussi une vraie culture de l'émigration qui s'est implantée, notamment avec donc, cette fête de l'émigration. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, cette fête? Qu'est-ce qu'elle honore, finalement?
La fête de l'émigrant, comme son nom l'indique, fête l'émigrant. Alors, ce n'est pas une particularité de Murtosa. Ce type de fête, on en retrouve un petit peu partout au Portugal. Les municipalités cherchent à valoriser un petit peu ces migrants parce que ce n'est pas simple d'être migrant dans le pays ou la ville qu'on a quitté. C'est toujours un petit peu ambivalent. Pourquoi les gens sont partis? Ils ont un petit peu laissé derrière eux leur ancienne vie, on leur reproche à demi-mot ce genre de choses. Et puis, quand ils sont partis, ils ont pris d'autres habitudes. Donc, ils sont toujours regardés un petit peu de manière ambivalente, toujours des moqueries. Et ces fêtes sont aussi l'occasion de créer de la sociabilité entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Elles n'ont pas lieu n'importe quand, elles ont lieu en été, de façon à ce que l'été, c'est la période où les migrants peuvent retourner un petit peu dans le le pays qu'ils ont quitté. Et c'est fait, alors pour Murtosa par exemple, eh bien, c'est l'occasion de présenter une exposition de tel peintre qui a été dans tel ou tel pays. C'est l'occasion de faire des courses de bateaux ou sur les pavillons, enfin on affiche des drapeaux des différents pays où on a été. La fête de l'émigrant met vraiment en valeur le parcours des émigrants.
Sert aussi de ça pour mettre en valeur la municipalité. Il y a un enjeu de promotion aussi municipale.
Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de Portugais partout dans le monde. Donc c'est un enjeu pour le Portugal de pouvoir maintenir le lien avec des gens qui ont des origines portugaises. Et l'intérêt, c'est que, par exemple, quand on habite aux États-Unis, qu'on est d'origine portugaise, on ne va pas revenir pour un week-end ou pour une semaine. On vient pour un mois. Et l'idée derrière cela, c'est que eh bien, si les gens, même si on n'est pas originaire de la ville de Murtosa, si on est originaire de Lisbonne ou d'autres villes, eh bien, si après avoir visité sa famille, on peut aussi aller passer quelques temps à Murtosa, dépenser un petit peu de sous dans les commerces, etc. C'est aussi une bonne chose. Donc c'est une manière de rendre hommage aux émigrants, c'est aussi une manière de faire connaître la ville, de ses priorités, de ce qu'elle développe, etc. Et donc d'attirer potentiellement eh bien, des visiteurs, disons-le, des touristes.
Cette histoire, vous parliez des traducteurs automatiques et puis des recherches qu'on fait des États-Unis. On va rester un peu sur le territoire nord-américain, mais que ce soit Jean-Christophe Roger qui nous en a parlé ou moi-même en faisant des recherches sur l'immigration solérique, j'ai redécouvert, ce que je n'étais pas sans le savoir, mais que nombre d'entre eux avaient émigré en France, mais avaient aussi assez nombreux émigré à Porto Rico, qui à l'époque était donc un territoire espagnol qui est devenu ensuite un territoire américain. Et justement, les pratiques actuelles en fait, de réseaux sociaux, de traducteurs automatiques, font que j'ai trouvé en fait un site internet, enfin un groupe Facebook où se rencontraient les portoricains d'ascendance mallorquine, et être rentré dans les groupes de discussion de ce groupe Facebook et rencontrer des gens qui en fait faisaient des recherches entre guillemets croisées, c'est-à-dire transatlantiques, c'est-à-dire moi je faisais des recherches sur ce qui se passait à Porto Rico et eux faisaient des recherches sur leurs lointains cousins en France, se rendre compte qu'en fait nos recherches se croisaient, rencontrer des gens qui sont en fait des cousins éloignés, puisqu'on se rend compte qu'on porte les mêmes noms de famille et qui sont des noms de famille typiquement qu'on retrouve à Mallorca, et quand on discute après ensemble que dans les traditions orales qu'on se transmet, dans des pratiques culinaires aussi, on partage des choses. Donc c'est assez rigolo parce qu'on se dit moi je suis en France et voilà, je me suis jamais posé la question de savoir si des gens dans la Caraïbe partageaient on va dire une tradition orale, et finalement se dire qu'à Porto Rico voilà, j'ai trouvé des gens en tout cas qui au-delà du même nom de famille mangent la même chose à table, racontent les mêmes histoires à leurs enfants et sont originaires en plus du coup du même village. Donc c'est vrai que c'est assez assez rigolo quoi.
Alors ouais, peut-être c'est intéressant justement de donc ce Jean-Christophe Roger là qui est donc a beaucoup travaillé finalement et qui en connaît beaucoup hein, sur l'immigration mallorquine.
Il me semble qu'on lui avait posé la question de l'implantation géographique. On va écouter ce qu'il nous avait répondu. Ouais.
Eh bien donc là on avance dans le parcours migratoire. Donc déjà pour se déplacer, on a parlé des embarcations. Alors le nom, je crois que c'était les payboats, je sais pas si je les prononce bien, Xabec, c'est ça?
Les Xabec.
Et Ilo, ouais. Je crois c'est les noms un peu qui étaient employés.
Les Xabec, okay. Les payboats, ouais, c'est des différentes tailles de voiliers. Alors, il y avait des voiliers jusqu'en 1895. Après, il y a eu des bateaux à vapeur. Hein. Il y a eu quelques bateaux à vapeur.
Voilà, c'est ce que je voulais. Ouais. Il y a eu un. Est-ce qu'il y a un moment de. Il y a eu les bateaux à vapeur ont permis aussi à plus de gens de venir, tout simplement?
Alors, oui, c'était essentiellement pour transporter des marchandises, hein, donc pas seulement les oranges, mais d'autres marchandises. Mais il y a également beaucoup de gens qui en profitaient pour monter sur les bateaux à vapeur et puis faire le trajet, ouais, entre Sóller et Sète ou entre Sóller et Marseille, effectivement. Ouais.
Et là, effectivement, donc on a parlé de Marseille, on a parlé de Sète. Il y a des très belles photos hein, qui restent de l'arrivée des oranges à Marseille. Et tout simplement, pourquoi Marseille quelle opportunité ça offrait d'arriver à Marseille? Bon, si ce n'est que c'est une ville forcément qui est au bord de la mer. Quelles étaient les opportunités tout simplement d'arriver à Marseille? Ça aurait pu être ailleurs hein, peut-être.
Bah, c'était le plus proche, hein. Il suffit de regarder une carte, c'était le plus proche, c'était une grande ville, donc il y avait un potentiel de clientèle, je suppose, assez important. On trouve dès les années 1880, on trouve des soyériques à Nantes, on trouve des soyériques à Toulouse, on trouve des soyériques à Lyon, on en trouve à Lille également, donc ils sont remontés dans le nord, on en trouve à Valence beaucoup, on en retrouve jusqu'à Lille assez rapidement avant la fin du 19e siècle. Donc ils se sont assez vite déplacés, ils sont pas restés à Soyères ils sont pas restés qu'à Marseille très très longtemps, ils se sont assez vite déplacés dans le reste de la France.
Si je me trompe pas, ils se sont aussi investis beaucoup dans des territoires frontaliers, notamment je pense à Belfort où il y a même eu des fortunes pour certaines assez colossales qui se sont réalisées ouais. Là-bas. Alors ça reste peut-être anecdotique. Est-ce qu'il y a des lieux comme ça où il y a eu des richesses à faire, et comment ça s'est après traduit là-bas sur place à Solaire, ces richesses ou ces personnes qui ont réussi à devenir prospères?
Alors effectivement, Belfort, c'est très juste, Belfort, il y avait beaucoup de familles de Soyeric à Belfort. En fait, il y a une famille qui est arrivée. Ce qui se passait, c'était, comme je disais tout à l'heure, de la cooptation. Donc en fait, il suffisait qu'il y ait une famille qui s'installe à un endroit donné, qui développe son commerce de manière assez importante. Il faisait venir beaucoup de jeunes de la famille ou des voisins ou des connaissances. Donc du coup, il y avait un appel d'air et ça, donc sur un lieu à partir d'un noyau familial, il y avait beaucoup d'autres familles qui arrivaient. Ça faisait un appel d'air. Donc c'est ce qui s'est passé à Belfort typiquement. Il y a eu une famille, effectivement, c'est la famille Magraner, hein, celle dont tu parles, je pense, qui a construit fameuse maison Canprunera qui est dans la rue de la Lune à Soyères, qui est un musée maintenant, qui est une maison moderniste assez impressionnante. Où effectivement, ils avaient énormément de magasins, et il y avait beaucoup de familles qui sont venues. Il y a eu Mulhouse également, il y a eu beaucoup de familles à Mulhouse, beaucoup de familles à Nantes. Il y a beaucoup de villes, effectivement, où il y a des villes moyennes. Hein. Alors, curieusement, à Paris, il y en a relativement peu. Il y en a très peu, même. Il y a très peu de Soyériques qui se sont installés à Paris. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais dans toutes les villes moyennes et dans toutes les villes petites à moyennes, je dirais entre 10 000 habitants et jusqu'à Lyon, donc jusqu'aux grandes villes de province, il y avait énormément de familles soyériques, alors plus ou moins en fonction, je dirais, des noyaux qui se sont constitués. Alors Belfort, qui n'est pas une si grande ville que ça, effectivement, il y en avait probablement beaucoup plus que dans la moyenne des autres villes, parce qu'il y a eu cet appel d'air lié à quelques familles qui ont généré beaucoup d'arrivées.
Et en région centre, est-ce qu'il y a des spécificités ou des choses remarquables que... vous auriez constaté dans vos recherches, pour avoir fouillé un petit peu, j'ai l'impression que par exemple Bourges, qui est une petite ville moyenne, ils sont assez nombreux par rapport même à des villes de taille semblable ailleurs en région. Donc est-ce qu'il y a eu aussi en région centre des choses assez remarquables?
Alors, j'ai pas regardé si Bourges, il y en avait plus qu'en moyenne. Peut-être, encore une fois, peut-être qu'il y en avait un petit peu plus. Il y en avait peut-être plus qu'à Châteauroux, par exemple. Il y en avait quelques familles à Châteauroux. Il y en avait quelques-unes à Tours. Il y en avait pas mal à Orléans également. Après, c'était à Saint-Amand-Montrond, que Sébastien connaît bien. Il y en avait deux ou trois. Donc, c'est plutôt beaucoup pour une ville de cette taille-là. Il y en avait à Vierzon. Il y en avait un peu partout. Il y en avait à Vendôme. Il y a encore un. Sébastien connaît également, il y a un des derniers Mohicans, un des derniers descendants de cette immigration qui tient encore un magasin de fruits et légumes à Vendôme, donc en région centre. Il y en a un autre à Châteauroux, il y a Arbona à Châteauroux. Donc la région centre est peut-être la région où il y a c'est peut-être les deux derniers descendants qui tiennent encore des magasins qui sont dans la région centre. Après, voilà, donc il y en avait, comme dans les autres régions, est-ce qu'il y en avait plus ou moins? Je ne suis pas sûr. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait une raison particulière. Moi, ce que j'ai tendance à remarquer quand on regarde une carte, c'est que alors ce n'est pas le cas pour la région centre, c'est que les Majorquins avaient tendance à être attirés par le bord de mer. Moi, je viens de Normandie, hein, mes grands-parents ont immigré dans le sud de la Manche. J'ai l'impression qu'il y a une surreprésentation au bord de la mer, mais c'est peut-être un biais un peu familial qui me fait dire ça.
En tout cas, quand on regarde, pour ce qui nous concerne, nous ici à Tours, quand on regarde en consultant les recensements, hein, les quartiers où ils étaient installés, il y a une forte concentration géographique dans des lieux qui sont assez restreints. Et à Tours, par exemple, c'est dans le quartier des Halles, ou jusque dans les années 20-30, donc dans l'ancien quartier des Halles, ils sont nombreux à y tenir un commerce. Donc, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est typique à cette diaspora et qui se vérifie dans d'autres villes, cette concentration géographique dans des lieux comme ça?
Oui, tout à fait. Bah, les Halles, en gros, les endroits où il y avait les marchés, ils s'installaient là parce que c'était le cœur de commerce, c'était les marchés quand même, en grande partie. Il y avait les magasins, il y avait les marchés. Donc effectivement, en général, près des Halles et des places où il y avait les marchés, il y avait pas mal de magasins de soyeries.
Donc on vient d'entendre encore une fois donc Jean-Christophe Roger sur donc l'implantation géographique de l'immigration mallorquine, et on a commencé à évoquer tout à l'heure la notion du transnationalisme qui fait écho au thème de la journée qui est organisée par la Ligue de l'enseignement sur le vivre ensemble, et on parlera tout à l'heure avec Alain Policard du communautarisme et donc le transnationalisme, est-ce que vous pouvez le définir? On a déjà un peu parlé tout à l'heure.
Oui, le transnationalisme, c'est ce qui diffère de l'échelle nationale. En fait, quand on peut s'intéresser à quelque chose, à parler de migration, par exemple en France. On prend les frontières nationales. Certes, c'est bien, mais il se passe plein de choses au-delà des frontières. Le transnationalisme, c'est poser son regard et ses oreilles, tout ce qu'on veut, sur ce qui se passe entre deux ou plusieurs lieux, là d'où l'on part et là d'où l'on vient. Parce qu'entre ces deux points, il se passe plein de choses. Les gens continuent de retourner de temps en temps chez eux, continuent d'avoir des discussions avec leurs parents, leurs amis, s'envoient des photos. Il y a plein de choses qui circulent. Et donc le transnationalisme définit tout ce qui se passe au-delà de l'échelle d'un pays, en fait.
Et alors, pour comprendre concrètement ce concept, il y a une sociologue, Peggy Levitt, qui parle des social remittances, alors des remises sociales, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça.
Oui, on pourrait. Les remises, c'est le terme qu'on utilise pour désigner ces envois d'argent. Les migrants, à l'époque, le taux de change était très intéressant. Les Portugais en France envoyaient un petit peu d'argent au Portugal pour leur famille, mais aussi pour alimenter. À Mortosa, par exemple, cet argent-là a servi à alimenter la construction d'un hôpital, etc. etc. Donc il y a des remises en termes d'argent, mais il y a aussi d'autres type de remise, c'est-à-dire de circulation d'autres choses, de biens symboliques. Une lettre envoyée, c'est un lien créé. On parlait tout à l'heure de l'alimentation, c'est quelque chose qui est effectivement très, très intéressant à étudier, parce que les gens qui migrent restent attachés à des recettes de cuisine, des manières de faire, etc. Tout ce que Peggy Levitt entend, alors il y a plusieurs types de remises d'après elle, mais ça définit tout ce qui circule en termes de savoir-faire, d'idées, ce qu'on pourrait résumer par des éléments, disons, culturels ou sociaux, quoi.
Alors ce concept de remise sociale et de transnationalisme, il remet un peu en cause quelque chose, c'est le concept d'identité. Alors ça dépend dans quelle façon on le prend, mais en tout cas il remet en cause la définition, comment on pourrait dire, substantialiste de l'identité. Comment on pourrait définir l'identité justement à partir de ce concept-là de transnationalisme? Ça veut dire que l'identité se construit, ça veut dire?
L'identité, vous avez raison de souligner que c'est très compliqué à attraper. On entend beaucoup, beaucoup ce terme, mais quand on s'attache à essayer de trouver l'identité, ça devient très compliqué parce que de toute évidence, l'identité ne se résume pas à une chose. Donc on peut essayer de trouver des grands critères, partager une même langue, partager un même territoire, etc. Mais ça ne s'applique jamais de manière universelle. Et quand on migre, tout à l'heure je disais que les migrants avaient une position un peu ambivalente. Dans le pays duquel ils sont partis, on les regarde comme des étrangers puisqu'ils sont partis en France ou ailleurs. Et puis dans le pays où ils arrivent, en France, on les regarde aussi comme des étrangers parce qu'ils viennent d'ailleurs. Et du coup, comment se définir ? Le principe d'une identité, enfin des identités, voilà, vous avez dit substantielles ou essentielles, c'est que l'identité pourrait se définir objectivement, par exemple, on pourrait classer les gens en fonction d'une identité. C'est pas si facile en fait. Et les Portugais, par exemple. Même s'ils ont des papiers français ou peu importe, ils n'ont aucun problème à se dire qu'ils sont portugais. Et si ce sont des petits-enfants de portugais, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont jamais migré, ils ne connaissent le Portugal qu'avec des yeux de petits-enfants de portugais, eh bien ils peuvent aussi se dire portugais sans que cela pose aucun problème. Mais il n'y a rien qui s'impose, en fait. Et puis ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'extérieur de dire toi, puisque tes grands-parents ou tes parents sont portugais, ben, tu es forcément portugais. Les gens disent moi je suis portugais et je suis français. Certains disent non, moi je me sens plus portugais que français. D'autres c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de règle générale. Et c'est ça toute la difficulté des termes un peu englobants comme ça qui collent une étiquette sur les gens en tant qu'ils sont portugais, français ou autre chose.
Et pour continuer sur ce thème du transnationalisme, et parce que tout à l'heure on a aussi parlé pour le village de Murtosa de ce que ça représentait pour les gens qui étaient restés, en fait, pour ceux qui restent, moi je me suis renseigné justement sur une ville comme Solaire, 10 000 habitants, dont on estime, je crois, que près d'un tiers de la population masculine à un moment donné était absente et était en France. Donc ça provoque forcément un déséquilibre démographique, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes présentes sur place que d'hommes. Donc je crois qu'on écoutera un extrait où Jean-Christophe Roger nous parlait des mariages. Mais avant d'écouter cet extrait, sur les femmes, justement, en fait, ça a contraint les femmes à aller occuper des places d'hommes dans certains métiers, notamment dans de la petite industrie, la petite industrie textile, d'autres types d'emplois. Mais du coup, en fait, découvrant la rudesse aussi des conditions de travail, les femmes à Solaire ont aussi découvert la lutte pour leurs droits, en fait, et ça induit peut-être une plus rapide prise de conscience des conditions de travail par les femmes que dans d'autres territoires de l'île et peut-être d'Espagne à cette époque-là, parce que les femmes ont dû occuper la place qui était tenue par les hommes. Et puis sur les mariages, on avait questionné Jean-Christophe Roger, et donc c'est lui qui va nous expliquer comment ça se passait.
Et tu parlais des petits, d'ailleurs, c'est aussi une immigration d'enfants, en tout cas de jeunes ados. Alors on n'a pas le même rapport à l'enfance à la fin du 19e que notre époque, ouais. Mais quand on regarde l'âge de certaines des personnes qui partent, on se rend compte qu'elles sont mineures et parfois très jeune, et qu'il y a même des placements qui s'opèrent. Alors à notre époque, ça paraît un peu fou, bien que l'actualité nous rappelle que les enfants aussi, malheureusement, dans certains cas, traversent les frontières de manière plus ou moins subie. Là aussi, on était dans une immigration qui concernait de très jeunes personnes.
Il y en avait qui partaient à 12 ans, effectivement. Ouais. Il y en avait qui partaient. C'était pas la majorité quand même. Il y en avait qui partaient à 12 ans, 14 ans, 16 ans. La majorité, je pense que c'était 17 ans. On peut pas dire que c'était une émigration forcée au sens où ça se faisait vraiment par cooptation, c'est-à-dire moi typiquement, si je prends l'exemple de mon grand-père, lui il est parti à 17 ans, il est pas parti très très jeune, hein. Il est parti travailler dans le commerce de sa sœur qui était plus âgée que lui et qui était donc avec son mari, qui était déjà installé dans une ville de Normande. Il a travaillé comme employé pendant quelques années. Ensuite il s'est marié avec ma grand-mère. Il s'est associé donc avec son beau-frère et quelques années plus tard, il a pris un propre commerce en son nom propre. Il s'est mis à son compte. Et ça, c'est vraiment le schéma classique de l'émigrant soyérique. L'émigrant soyérique, le schéma classique, c'est il part à 16 ans, il va travailler chez son oncle, son cousin, son grand frère ou une connaissance. Il accumule un petit. Alors, il est un petit peu exploité. Hein. Il travaille, il est logé, nourri, blanchi, mais il travaille pas pour. Voilà, il n'a pas un revenu fixe. Alors, il a un solde que souvent le patron garde pour lui donner à la fin, hein, au bout de quelques années, quand il s'en ira ailleurs. Donc, au bout de ces quelques années, justement, quand il a accumulé justement suffisamment d'argent, soit pour se mettre à son compte, soit pour prendre la suite de son patron qui a envie de rentrer à Soyer, voilà, il monte une échelle dans la hiérarchie de l'émigrant. Il devient soit son propre patron, soit associé. En général, il se marie à ce moment-là également. C'est une histoire qui fait, alors, qui paraît bizarre, encore une fois, quand on le regarde avec notre regard actuel. C'est le jeune Soyeric, donc c'était des jeunes garçons, hein, principalement. Le jeune Soyeric, donc, n'avait pas le temps de. Il travaillait tout le temps, hein, quand il était en France, il travaillait tout le temps, donc il n'avait pas le temps de s'intéresser aux filles et de chercher une femme française. Donc ce qu'il faisait, en fait, il écrivait une lettre au curé de Soyer en lui disant, bah voilà, je suis émigré depuis quelques années, j'aimerais bien me marier. Il envoyait une photo et le curé s'occupait de lui trouver une femme à Soyer. Donc, en fait, le curé connaissait bien toutes les familles de Soyer. Il savait quelles étaient les jeunes filles en âge de se marier. Comme il y avait beaucoup de jeunes hommes soyériques qui étaient émigrés, il n'y avait pas trop de choix. Donc, les jeunes filles soyériques étaient intéressées par trouver des maris potentiels. Donc, le curé servait d'agence matrimoniale. Il mettait en relation des jeunes soyériques émigrés avec des jeunes filles en âge de se marier. Une fois qu'ils étaient d'accord sur le principe sans s'être vus, le jeune soyérique, donc l'homme, revenait à Soyer. Quelques jours uniquement. Donc le premier jour, il rencontrait quand même la jeune fille pour s'assurer qu'il n'y avait pas de, voilà, qu'il n'y avait pas d'inconvénient majeur. Le lendemain, il se mariait à 7 heures du matin. Le surlendemain, il faisait une petite fête en famille. Et puis le quatrième jour, il rentrait en France avec la mariée. Et le surlendemain, elle se mettait à travailler dans le magasin. Donc voilà, mais ça, c'est pas une légende. Hein. On peut croire que c'est une légende, mais c'est vrai. Il y a des témoignages. Moi, alors c'est pas le cas de mes grands-parents puisqu'ils étaient tous les deux en France, ils se sont connus en France.
En tout
Mais
cas, c'est le cas.
les sœurs de mon grand-père, c'est arrivé comme ça. Le frère de ma grand-mère, c'est arrivé comme ça. C'était des mariages arrangés par l'intermédiaire du curé de la ville de Soyer. C'est assez incroyable. Et on peut imaginer le choc pour la mariée, le choc pour la jeune mariée de quitter sa ville natale de Soyer où elle était entourée de sa famille pour en quelques jours se marier avec un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu, se retrouver dans un pays qu'elle
Il y avait
connaissait
des surprises
pas,
quand même.
dans une ville qu'elle connaissait pas, avec une culture qu'elle ne connaissait pas, une langue qu'elle ne connaissait pas, découvrir un métier qu'elle ne connaissait pas et se mettre à travailler dans un magasin. Enfin, c'est assez incroyable.
Bon, alors on continue, enfin on conclut cette partie donc de l'émission avec Guillaume Étienne et m'est venu en écoutant, en parlant tout à l'heure plutôt de l'identité, peut-être pour. Peut-être pour conclure là-dessus, je me rappelle d'une anecdote que vous aviez racontée en cours, parce que vous étiez mon ancien professeur, voilà, je ne cache rien, mais une anecdote en fait qu'un monsieur vous est venu vous parler du fait qu'il s'inquiétait, alors je crois que c'était au Portugal, qu'il s'inquiétait que la langue en fait n'était plus parlée par la deuxième génération. Et voilà, ça montrait en fait que bon, l'identité finalement, lui il la voyait comme ça. Pour lui, l'identité était consubstantielle à la langue, mais que pour les Portugais qui parlaient pas forcément la langue, finalement, ça se construisait autrement. Est-ce que cette anecdote est véridique?
Tout à fait. Et cette histoire s'est passée justement à Murtosa, où j'avais été, pendant la fête de l'émigrant, en fait, j'avais été présenter un compte-rendu de l'étude qu'on avait menée à la Riche. Et à la suite de ma présentation, il y a effectivement un monsieur qui m'interpelle, donc publiquement, enfin, et qui explique que lui vit au Canada et que c'est bien joli tout ça. Ses petits-enfants ont des maillots de foot de, je ne sais plus, Benfica ou un autre, mais ils ne parlent pas portugais. Et du coup, c'est pas. Ce ne sont pas des vrais Portugais, en fait, voilà, parce qu'ils ne parlent pas la langue, mais ils utilisent des artifices comme les vêtements, etc. Et j'ai eu un petit peu de mal à expliquer la posture selon laquelle la langue ne suffit pas à étiqueter quelqu'un de portugais, français ou n'importe quoi d'autre, hein. mais qu'il y a tout un tas d'autres choses comme la cuisine, des pratiques, etc., éventuellement des croyances qui alimentent l'identité et qu'on ne peut pas... Enfin, c'est bien réducteur de considérer la maîtrise d'une langue comme un passeport pour l'identité, quoi. Donc oui, c'était tout à fait véridique. Et juste pour terminer à ce sujet-là, dans cette soirée-là, je me souviens que plusieurs personnes avaient montré leur agacement par rapport à ce type de questions et avaient invité ce monsieur à se taire, justement, parce que ça représentait une posture qui n'était visiblement pas la bienvenue, en tout cas publiquement.
Et donc Maxime, tu parlais des cours que tu as pu avoir avec Guillaume Etienne. Nous, on s'est connus dans un autre cadre professionnel et avec un autre public migrant. Et justement, je voulais savoir votre regard par rapport à des choses très contemporaines, actuelles, qu'on vit ici. De nouveau, on observe ces phénomènes de transnationalisme et de pratiques avec, donc là pour parler des publics qu'on avait pu rencontrer, qui étaient des mineurs étrangers, donc, qui étaient majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest, qui étaient présents en France. Est-ce que de nouveau ces phénomènes se reproduisent, alors peut-être avec leur spécificité ?
Oui, transnationalisme. Alors évidemment, il y a des relations qui sont moins évidentes que d'autres. Si on vient d'un pays en guerre où la plupart des communications sont très difficiles, c'est pas le même type de lien qu'on va entretenir que si on vient d'un autre endroit. Mais oui, tout à fait, avec les jeunes qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui viennent de partout dans le monde, mais effectivement beaucoup d'Afrique de l'Ouest, j'ai pu observer des relations constantes avec des gens restés au pays ou même qui sont venus aussi en France. La différence, c'est qu'il est assez difficile pour eux d'en parler pour des raisons administratives, en fait. Ils savent qu'ils sont censés être mineurs. Ils sont mineurs. Ils ne doivent pas avoir de représentant légal en France. C'est le principe qui fait qu'ils sont mineurs non accompagnés. Du coup, entretenir un peu trop de relations, ou montrer trop de relations entretenues avec sa famille, etc., pourrait leur être préjudiciable, en fait, d'un point de vue purement administratif. Mais oui, tout à fait, les relations existent.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau.
Merci beaucoup à vous.
Et on va marquer une nouvelle pause musicale. Peut-être Seb, est-ce que tu peux nous... Non, c'est Axel, pardon.
Eh bien écoute, cette fois-ci on va s'attarder sur un échange entre deux artistes diamétralement opposés. D'un côté, la chanteuse interprète Rocky Akone, ancienne choriste d'Alia Koulibaly, l'une des plus grandes stars du Mali, et membre du supergroupe féminin Les Amazones d'Afrique. De l'autre, le producteur irlandais de rock Jahknife Lee, connu pour avoir composé les disques de U2 ou The Killers. À eux deux, ils fabriquent l'album Bananan, entre improvisation malienne et plage nappeuse au synthétiseur. Au cours du projet se trouve un hommage aux Bambaras du sud du Mali, à leur langue, leur culture et leurs pratiques. Un album conçu entièrement à distance, mais qui témoigne toutefois d'une envie de lier différents pans musicaux. On va s'écouter Biye Tumulumba Ye, bel exemple de leur travail collaboratif.
Soya yo biye tolomae. Soya yo biye tolomae. Bitae tolomae, bitae huyamae. Bi huyamae, bitae nyanajai. Soya yo. Soya yo biye tolomae. So ya yo bien ya naje Bitae tolomae, bitae hui amae Bitae hui amae, bitae ya naje Bitae tolomae, bitae ya harin So ya ya soya yo mieto lo mae. Sigibe malilu o madiado, tenimu sobe malulu madiado. Sigibe malilu o madiado, bali ma vida be malulu madiado. Sigibe malilu o madiado, arete se vida be malulu madiado. Sigibe malilu o madiado. Eri ma vila be malulu mandiano analu ma sigila dia jamaele tole no ma sigila dia jamaele toni soya ya sigibe malulu o mandiano tenimu so be malulu mandiano sigibe malulu o mandiano jali deri la be malulu mandiano sigibe malulu Omadiado, adi tisi vila be mali olu madiado. Wana umasigi ladia, jamaele tole soya yo. Musoya yo bie tolo mae. Soya yo bie tolo mae.
Oh, yeah.